I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 103 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on va parler de UFC 293 en Australie. Alors, carte qui, sur le papier, je vais être complètement honnête avec vous, ne m'inspirait pas grand-chose. C'était pas une carte qui m'avait hypé tant que ça. Le retour de Easy me hypait pas forcément non plus, même si c'est toujours le fun de voir Easy se battre, mais compte tenu de l'état de la catégorie des middleweight et du fait qu'on se retrouve avec Sean Strickland qui après deux victoires de suite se voit donner un title shot, alors oui, il a fait des main events, il a fait des 5 rounds, il a eu des victoires, mais voilà, c'est pas le combattant le plus passionnant, le plus technique, surtout face à un gars comme Easy. Et puis les main, co-main, etc., les prélims surtout ne me bottaient pas tant que ça, mais il s'est quand même passé pas mal de belles choses sur cette carte. On va revoir quelques combats des prélims et la majorité des combats de la main card. Alors on commence tout de suite avec l'ouverture de cette carte dans les early prelims avec Kevin Jousset, le welterweight de chez City Kickboxing, hein, qui a été signé il y a quelques semaines, évidemment juste avant l'event en Australie, ça n'est pas un hasard. Et combat plutôt sympa. Rien de méga impressionnant, j'ai envie de dire, pour Kevin Jousset non plus. Par contre, vraiment une bonne utilisation de son range, une bonne utilisation de la longe. Il laissait Crosby venir vers lui, mais il taffait bien son jab et ses front kicks pour garder son adversaire à distance. Il a bien connecté avec son jab. Son jab est vraiment bon, il sait bien l'utiliser. Il le vise bien, il est rapide. Il arrive aussi à bloquer les assauts de son adversaire, hein, dans le striking. C'est une technique vraiment simple pour bloquer son adversaire qui avance vers vous. Push kick ou jab. Vraiment des trucs de débutant, la base, et ça peut très bien marcher. Il pousse contre la grille justement avec son jab et avec des inside leg kicks. En sortie de clinch, il dégomme bien avec des coudes. Crosby attaque sur des entrées avec des gros crochets du droit, attention. Et justement, je pense qu'il y a eu ce petit moment chez Kevin qui a été une bonne décision niveau Fight IQ et puis aussi qui lui aura donné tout simplement la victoire parce que première tentative de takedown et première amenée au sol directement. Et là par contre, carton rouge, j'ai envie de dire, même pas carton jaune, carton rouge direct pour Crosby sur la défense de soumission de Kevin Jousset. Alors ça, c'est le gros point noir, clairement, hein, pour Crosby là-dessus, c'est qu'il n'a pas connecté ses coudes avec ses genoux, hein, donc pas de position de tortue de protection. Il a laissé vraiment, littéralement, Kevin Jousset lui monter dessus, lui prendre son dos, passer ses crochets, il n'y a pas eu besoin de mettre le sac à dos, de mettre le seatbelt, rien du tout. Ça a été très très vite pour Kevin Jousset. Il a réussi à passer le rear naked choke très rapidement et voilà, ça a été très vite pour la défaite de Kiefer Crosby, l'Irlandais. Vraiment point noir, hein. Là je vous le dis, carton rouge direct parce que c'est la pire défense, c'est la pire position de tortue que j'ai vue depuis très longtemps en MMA. Mais voilà, je veux pas enlever la performance de Jousset qui, c'est parfait pour lui, hein. Il a un finish dans le premier round chez lui, entre guillemets. Bravo à lui, je pense que ce serait un peu prématuré de parler de super bons combattants, etc. Moi, je vous le dis, je vais être honnête, je ne le connaissais pas avant. J'ai jamais vu ses combats. J'ai pas pris la peine d'aller regarder ses combats avant. Il est bon. Il est doué. Surtout, il a été simple et discipliné. Il a pas paniqué. C'est très bon. C'est un bon signe. Mais après, de là à faire des plans sur la comète, je n'en sais rien. Il faudrait en voir un peu plus. Je pense qu'on n'a pas vu assez pour... en tout cas, moi, je n'en ai pas vu assez pour me faire vraiment une bonne opinion sur le français. Mais bon début. Bon début. Et début parfait, tout simplement, sur le papier, du moins. Donc, bravo à Kevin Jousset. Je voudrais en voir plus pour me donner un vrai avis sur ce fighter. Mais bravo au français welterweight Kevin Jousset qui monte à 9-2, première victoire au UFC. Alors le combat qui suivait entre Shen Yang et Gabriel Miranda, Miranda Black Belt en Jiu-Jitsu qui est vraiment très bon en grappling, j'ai bien aimé son style dans le passé et c'est pour ça que ça m'intéressait quand même de voir ce combat et je pense que j'ai raison parce que quelle victoire éclair de Gabriel Miranda. Hein. Ça lui a pris 30 secondes pour aller choquer inconsciemment, Shen Yang. Devant son public en littéralement moins d'une minute, à savoir 59 secondes. Là, par contre, la prise de dos était très rapide, etc. Mais on n'était pas dans le niveau de Crosby. Je pense que c'était plus Gabriel Miranda qui était très, très fort. On était chez les featherweight, donc ça va vite. Ouais, c'était un neck crank au début, hein, mais la façon dont il a été chercher le dos, monter le dos de son adversaire, va mettre vite un crochet minimum pour pouvoir finir ce rear naked choke. Au début, il avait un espèce de face crank. Hein, quand vous avez la tête un peu de côté sur un rear naked choke, ça peut vous faire mal à la mâchoire ou alors vous faire mal littéralement à la face, quoi. Mais généralement, c'est la mâchoire qui prend plus. C'est très dangereux. Ça fait très peur pour ceux qui pratiquent un peu et pour qui se sont déjà pris ça, t'as envie de taper très vite. Shen Yang n'a pas tapé, mais s'est fait endormir, hein, puisqu'au final, Gabriel Miranda a réussi à réajuster ses mains pour pouvoir choquer son adversaire. Victoire et clair en une minute. Là, on n'a pas vu grand-chose, sauf du grappling de talent de la part de Miranda, pardon. Mais comme je vous l'ai dit, Black Belt en Jiu-Jitsu et un style vraiment agréable au niveau du grappling. Bravo Gabriel Miranda qui éteint Shen Yang sur son continent dur. Dur, 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 mais bravo Gabriel Miranda. Alors comme je vous le dis, c'était pas tous les combats qui m'intéressaient déjà avant. Ensuite, après les combats, c'est plus ou moins le même constat. Nasrat va souvent à la décision. Il est allé à la décision, il a gagné, mais tant mieux pour lui. Jamie Mullarkey a gagné à la décision. De ce que j'ai vu brièvement, j'ai un peu l'impression que notre Canadien John McDessie s'est fait un peu robber. Il avait vraiment pas l'air content et de ce que j'en ai vu vite fait à zioter le combat un peu sur la physionomie, j'aurais vu John McDessie, mais voilà, Jamie Mullarkey qui prend la décision. Et le combat suivant qui m'intéressait, c'était Jack Jenkins, le featherweight australien, face à Chepe Mariscal, hein. Chepe Mariscal qui est cool aussi comme combattant, il m'intéressait quand même pour la bonne et simple raison que il a battu Trevor Peak dans un combat assez foufou, mais il est cool Chepe Mariscal, il est très un peu brawler, il a gagné au Cage Warrior, il a des victoires au Cage Warrior, au LFA, etc. Et il a été signé au UFC après sa dernière victoire au LFA, il avait gagné contre Trevor Peak. Et là, il se retrouve face à Jack Jenkins, et j'aime aussi beaucoup Jack Jenkins, de par son style, parce que je trouve qu'il a des bons déplacements, du bon hand movement, et un striking qui est fun à regarder, mais on a eu un petit drame, et je vais y revenir dans quelques minutes. Avant ça, premier round, premier switch kick au corps de Jenkins, très bien placé. Puis comme je vous dis, j'aime bien ses déplacements, j'aime bien son striking. Mariscal reste actif, mais Jenkins a une bonne garde et se déplace vraiment vite. Hein. Bon movement aussi. Dans le clinch, par contre, ça devient dangereux. Hein. Dès qu'on part en brawl, et puis Jenkins aime bien brawler aussi, mais Mariscal, c'est un vieux briscard du brawl aussi. J'ai l'impression qu'on est un peu un 50-50 hein, quand on part dans le dirty boxing, dans le clinch, donc c'est un peu dangereux. Jenkins, intelligemment, veut sortir. Mariscal check beaucoup de leg kick de Jenkins, j'ai remarqué aussi, c'est pas mal. Et c'est lui qui fonce plus sur son adversaire pour le pousser contre la grille. Par contre, Jenkins connecte mieux en counter, je vous l'ai dit, fun striking à regarder. Et Mariscal mange quelques punches. Alors le premier round, je le vois pour Jenkins. Le deuxième round, Mariscal veut vraiment aller au brawl contre la grille. Jenkins, est plus smart et va lutter contre la grille. Il insiste à passer quelques genoux dans le clinch, ça c'est cool. On repart un peu contre la grille et le drame arrive. Alors, on est, je pense, deuxième, troisième minute, quelque chose comme ça. Et je vois toujours Jenkins, pour le moment, à la moitié du combat, on va dire, prendre le combat. Et là, le drame. Et là, le drame sur un judo throw. Jenkins garde son wither de son côté gauche, avec son bras gauche. Et par contre, Mariscal était bien parti pour prendre le dessus sur son adversaire en le judo throw. Mais en se rattrapant sur son bras droit, le coude de Jenkins lâche, part dans l'autre sens, et c'est le freak accident, c'est dégueulasse. On a revu les images vite fait, Cormier me fait rire à dire non, c'est bon, j'ai pas envie de le revoir, je l'ai vu. Il a raison, je le comprends, j'aime pas voir ça non plus. Voilà, coup de dans l'autre sens, horrible. Voilà, verbal tap direct. Mariscal gagne, bizarrement, mais il passait quand même, s'est amené au sol. Il l'a passé. Après, Jenkins allait peut-être se relever derrière, etc. Hein, parce qu'on était un petit peu dans un dogfight. J'ai l'impression, quand ça remontait, un dogfight, pour, excusez-moi, terme technique, un petit peu en grappling, c'est quand vous avez un bras dessus, un bras dessous, et que les deux sont un petit peu à genoux, hein, côte à côte. Ça aurait pu. Et dans ce moment-là, c'est plus ou moins 50-50. Il y a une position un peu plus dominante, on va dire de 60-40 pour l'adversaire qui a le underhook, hein, parce que le underhook est toujours plus puissant, même qu'un Wither. Mais. Avec Jenkins, je le trouve bon et je me disais, bon, c'est bon, il va se relever, mais là, non, il ne se relève pas. Il ne se relève pas, c'est terminé. Voilà, coup d'embousse pour Jenkins, c'est cracra. Mais voilà, c'est un sport de dur à cuire et c'est compliqué les blessures, mais là, c'est chaud quand même pour Jenkins, c'est sale. Et puis, ouais. Devant son public, il aurait bien voulu reprendre une victoire. Il était bien parti pour. Malheureusement, freak accident et c'est terminé. Voilà, c'est moche quand ça se termine un peu en queue de poisson comme ça, mais bon, Mariscal doit prendre sa victoire. Point barre. Et victoire de Chepe Mariscal. Là aussi, autre combat qui m'intéressait vraiment, c'était peut-être le au final, bah, après les débuts de Kevin Jousset par curiosité, mais là, le combat, le premier combat de la carte qui m'intéressait. Absolument, vraiment, c'était Carlos Hulberg. Alors, encore une fois, on est chez les Light Heavyweight. Comme pour ceux qui m'écoutent, vous connaissez ma relation d'amour-haine avec les Light Heavyweight en général, mais au UFC particulièrement. Et Carlos Hulberg, par contre, c'est un gars qui cogne. C'est un gars qui cogne et qui s'est couché ses adversaires. Après, on est chez la Light Heavyweight, le gars de l'expérience en kickboxing, etc. C'est pas non plus le plus complet, mais ça marche quand même pas mal bien pour lui sur ses derniers combats. Je pense qu'il est il a combien maintenant? Il a 10-1 après ce combat-là. Et son nouvel adversaire était Da Eun-jung, un Coréen. Qui lui était sur deux défaites d'affilée face à Dustin Jacoby et Devin Clark. Alors ça, c'est le seul problème avec Carlos Hulberg, c'est qu'il fight toujours pas des classés, quoi. Bon, peut-être qu'il en a fighté un dans le passé, mais genre, j'ai l'impression que ses opponents sont pas les plus gros, quoi. Je veux dire, il s'est battu contre au Contender Series contre Bruno Oliveira, il l'a fini en un round et après il a perdu son premier combat face à Kennedy Nkush. Oh my god, je vais le butcher son name. Neskushvu. Oh là là, démerdez-vous avec ça, désolé. Je m'excuse auprès de lui. Bon après Fabio Cheren, je connais pas. Tatone, pourquoi vous avez des noms comme ça en plus d'être des fucking nobody là? Tafon Nkushvi. Nikolae, oh my god, bref, j'arrête. Ah, Ior Poteria, celui-là, il est cool quand même. Mais il l'a défoncé aussi. Et puis, quand est-ce que le niveau va level up pour Carlos Hulberg? C'est ça qui m'embête un petit peu avec lui. Clairement, pour son prochain combat, il lui en faudrait un, quoi. Et là, l'opposition en face n'était pas. Écoutez, en tout cas, dans le premier round, il y avait quand même une bonne opposition, mais le combat a vite viré, je trouve. Hein, c'est. Ça a été une montée en puissance petit à petit de Carlos Hulberg. Par contre, ce que j'aimais de lui, c'est qu'il a été très composé, très calme, très patient, très discipliné. Et ça peut lui faire que du bien. Face à un kickbox, parce que ça, il vient du kickboxing et puis faire une transition vers le MMA, ça peut être compliqué tant il y a des éléments à maîtriser sur ce sport-là. Et quand tu essayes de mélanger un peu tout, alors que t'es pas forcément, t'es plus ou moins moyen dans la plupart des disciplines, sauf en pied-point. Tu peux prendre des mauvaises décisions, t'énerver, etc. Tandis que là, Carlos Hulberg, je l'ai trouvé vraiment bon sur ce point-là. Premier round, à début assez tranquille, quelques échanges de low kick. Les deux ont la même allonge. Donc, c'est assez compliqué d'avoir quelqu'un qui prend le dessus dans les premières minutes. C'est un peu un round, on va dire, d'observation. C'est Hulberg, par contre, qui passe son premier power jab et Jung se retrouve directement sur le cul mais se relève. Carlos, par contre, ne rush pas pour aller chercher le finish après avoir droppé son adversaire. Ça, c'est smart aussi parce qu'il voulait pas vider son gas tank. J'ai vu des combats de Hulberg où il n'en pouvait plus assez vite, même s'il gagne. Ça, c'est un défaut. Donc ça a été une bonne décision de la part de l'Australien. Il prend son temps, il rentre, il sort et il commence à infliger les premiers dégâts avec son jab au coréen. Deuxième round, le jab fait toujours mal, mais Jung passe encore du low kick. Alors ça, ça peut faire mal, mais par contre, une fois que l'allonge et la gestion de la distance étaient du côté de Hulberg, ben, là, il a commencé à dérouler. Les échanges de boxe sont brefs, mais Jung a clairement peur et en danger sur ces échanges. Hulberg prend toujours son temps. Jung essaie de chasser Hulberg contre la grille, mais se fait jabber bien trop la face. La tech de Jung commence vraiment à sauter dans tous les sens. Et dure fin de round pour le Coréen qui se fait un peu battered, quoi. Ça commence à être très compliqué pour lui. Round 3, Jung cherche toujours la solution en poussant contre la cage, mais les déplacements latéraux de Hulberg sont vraiment bons, assez rapides, et c'est difficile pour le Coréen d'aller le chercher. Il tente un takedown qui est avorté directement, puis il perd son échange dans le clinch, et Hulberg passe un takedown. Jung passe le premier takedown, Hulberg se relève vite. Jung parvient à mieux connecter hein, dans le troisième round, mais c'est un peu tard. Et c'est lui toujours hein, qui se fait dominer dans le striking, c'est lui qui prend le plus de damage dans la face. Hulberg choisit la lutte par sécurité, il a raison, il gagne le combat, pourquoi pas. Et il finit par mettre Jung au sol, il passe en full mount, presque en full mount, un peu de ground and pound, bon maintien de la position. Jung est en mode survie. Il commence à tourner son dos, donner son coup, et il survit, il reste 10 secondes, et j'ai pris dans mes notes que Jung ne veut pas taper, et bizarrement, je regarde les résultats sur Google derrière, et je vois que Hulberg a gagné par soumission, par rear naked choke, et effectivement, je vois des vidéos sur Twitter où Jung avait tapé. On le voit taper au sol 2-3 fois, des petits taps, mais clairement, il y a un tap assez clair, et Hulberg ben, prend une victoire par finish, par soumission, mais... Fight intelligent de Hulberg, et comme je vous le dis là, il est temps de fighter quelqu'un de plus gros là chez la light heavyweight, parce que c'est quoi le point de toujours, surtout on est chez les light heavyweight, ce serait genre chez les bantam ou chez les feather ou chez les lightweight, etc. Genre, je comprendrais, mais là il est temps d'aller chercher un classé pour Hulberg, parce que c'est plus le temps de rigoler, parce que c'est plus le temps de rigoler avec les fonds de tiroir des light heavyweight là, c'est fini, va chercher un meilleur adversaire, j'ai envie de dire, même si dans le premier round, comme je vous le dis, le coréen poussait un peu plus. Ben voilà, on clôture les prélims avec ça, et on commence la main card encore une fois avec plus de light heavyweight, avec Tyson Pedro, que j'affectionne particulièrement parce qu'il est fun, certes un peu un journeyman hein, chez les light heavyweight, mais il est vraiment cool, il a une histoire de vie vraiment inspirante, et j'ai horreur d'utiliser ce mot là parce que c'est utilisé beaucoup trop à outrance récemment sur les réseaux, ou alors les gens qui s'inspirent online gourou et qui s'improvisent online gourou, etc. Mais il y a toujours des gens, des films, peu importe dans la vie, il y a toujours des choses inspirantes. Et moi, Tyson Pedro, son histoire m'inspire puisqu'il a eu une vie très, très difficile. Et les gens qui retournent leur vie dans ce sens-là pour se retrouver en dessous des projecteurs à travailler dur et à aller chercher des victoires, à repartir sur des défaites, à revenir chercher des victoires, eh ben ça m'inspire. Et Tyson Pedro m'a inspiré ce soir parce que son dernier combat était, j'ai envie de le dire, et je l'ai été très vocal là-dessus, à chier le dernier combat. Mais ce combat-là, bordel qu'on s'est fait plaisir. Premier round, magnifique, 1-2 directement, qui touche Turkage, c'est très rapide au niveau du hand movement, au niveau des mains de Pedro et des déplacements. Tyson Pedro feinte beaucoup, il analyse les déplacements de Turkage et il time très très bien ses 1-2. Il reconnecte avec une droite directe et c'est là le début de la fin. Une ou deux de plus et Turkage tombe au sol. Il aura suffi d'un ou deux coups suivis derrière, et puis c'est terminé. Hein ? C'est terminé. Victoire éclair de Tyson Pedro. Je l'ai trouvé vraiment assassin sur ce combat-là. Il a été très, très clinique. Je l'ai trouvé vraiment sérieux et tellement concentré. J'ai l'impression qu'il avait vraiment envie d'aller chasser et tuer son adversaire, et c'est clairement ce qu'il a fait. C'était impressionnant et ça fait plaisir. Il était fucking heureux aussi de le voir. C'était cool. Bref, c'est comme je vous le dis, le genre de gars qui il se prend des coups dans la vie, il se relève, et de voir ça, bah, moi ça me fait du bien. à mon âme et à mon petit cœur de fan de MMA. Donc, bravo à Tyson Pedro, super victoire. Et puis, on essaie de continuer à enchaîner pour lui. On est chez les light heavyweight. Il y a de la place, hein, il y a de la place clairement au classement. Mais voilà, on sait que Tyson Pedro, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est un gars, c'est un nom au UFC, malgré tout. C'est un gars qui est là dans la catégorie, il est présent et on ne l'enterrera pas de si peu. Merci Tyson Pedro. Et on enchaîne avec les locaux et Junior Tafa, hein, ancien fighter de K1. Ça, j'ai les Tafa. Franchement, c'est un petit événement. Hein. C'est un petit événement d'avoir un Tafa qui se bat. Et encore une fois, eh ben, on a eu un petit événement. On a eu un super first round KO. C'était excellent. C'était excellent parce que... Bah parce que c'est des heavyweight qui cognent, hein. Moi, c'est ce que je me disais, c'est genre, attention à cette main gauche de Tafa, quoi. Ça peut faire très mal, et ben, figurez-vous que ça a fait vraiment fucking mal, quoi. La différence de gabarit était débile entre les deux, j'ai envie de vous dire. Austin Lane était beaucoup plus gros, mais la main gauche de Tafa a toujours été la plus menaçante, et il en a suffi d'une seule, main qui connecte. Bon, alors certes, qui connecte. Très bien. Non, en fait, c'était la deuxième. Mais la première a connecté un petit peu plus avec le poignet, j'ai l'impression. La deuxième, c'était vraiment genre un crochet, genre plein menton. Ça a fini son adversaire au sol. Et là, je pense qu'on a assisté au grand end pound le plus épeurant depuis des lustres. Alors, pas forcément dans l'efficacité, la longueur et puis quelqu'un qui se fait rincer sur plusieurs rounds. Non, là, un grand end pound, le grand end pound de Hulk. Vraiment la peur. La peur parce que les bombes qui drop sur son adversaire à la vitesse pour un gars de ce gabarit-là. Mais vraiment, hein, genre, si tu voulais tuer quelqu'un sur un trottoir, c'est le genre de grand end pound que tu passerais sur quelqu'un, quoi. Vraiment des grosses mines, pleine face, l'arbitre est intervenu. L'autre, il s'est relevé, quoi, Austin Lane, mais genre, je pensais qu'il allait rester au sol pour plusieurs minutes, quoi, mais. Good, hein, parce qu'on veut pas que les gens se blessent, on veut pas que les gens soient en mauvaise santé. Et on adore la violence. Et la violence de ce type-là, là, de ce grand end pound là de Tafa, bah, c'est pour ça aussi qu'on aime le MMA. Faut pas se... Enfin, il n'y a pas de honte à avoir, les gars. C'est beau à voir ça. C'était fucking malade. Quel instinct de tueur, quoi. Comment il peut gagner autrement, Tafa? Bah, je sais pas. J'ai l'impression que c'est droite, emmené au sol, terminé. C'est plaisant à voir, c'est les heavyweight, c'est cool. Et puis on en reverra, et puis je serai content de le revoir encore une fois, en espérant qu'il se passe ce même genre de scénario, à savoir la bonne patate du forain qui envoie son adversaire plus qu'in deep waters, là. C'est genre, si on pouvait l'enterrer en dessous de l'océan, on le ferait, quoi. Ben, Junior Tafa, Justin Tafa, pardon, le ferait. Ouais, les deux voudraient se battre sur la même carte d'ailleurs. Franchement, mettez Justin et Junior sur la prochaine carte en Océanie. On voudrait le voir. Bravo Justin Tafa pour ce superbe first round KO. Et le combat le plus intéressant. Après l'avoir vu, techniquement, tactiquement, spectaculairement, eh ben c'est les flyweight. Manel Capé face à Felipe dos Santos. Alors Manel Capé. Avant de rentrer dans le fight, hein, il faut mettre un petit peu de contexte à Manel Capé, qui est le fighter le plus poisseux, j'ai envie de dire, de ces derniers mois. Hein. Clairement, le gars s'est retrouvé face à des adversaires qui ont pull out, qui ont abandonné, qui ont été blessés, qui ont ci, qui ont ça. Et il en a marre. Et je pense qu'il est frustré. Et puis en conférence de presse, il a montré sa frustration d'une façon peut-être un peu bancale, c'est possible, oui. Parce que Kai Kara France s'est mangé un trauma, non, je trouve pas le mot, démerdez-vous avec concussion, il a eu raison de pull out, parce que c'est vraiment dangereux, hein, de se fighter avec une concussion derrière. Il faut prendre soin de sa tête, il faut prendre soin de son corps, et Kai Kara France a eu raison. Et puis bon, ben, Manel Capé en a voulu, il s'est pris la tête avec Easy en conf de presse. Moi, je la regarde plus, hein, parce que ça me casse la tête, je vous le dis, c'est vraiment un spectacle de merde, ça pue du cul. Franchement, je préfère regarder de la télé-réalité que de regarder la conférence de presse du UFC. C'est de la putain de merde. Récemment, on se fait chier, c'est du trash talk à chier, enfin bref, c'est pourri. Et j'en vois 2-3 clips sur Twitter, ça me suffit. D'écouter Sean Strickland pendant plus de 10 secondes, je ne peux plus. Et voilà, c'est forcément, les gens l'ont boué, l'ont sifflé, mais les deux nous ont donné un combat de fou. Parce que Felipe Dos Santos, lui, a steppé en short notice, et bravo à lui, parce que d'être jeune et d'aller chercher un top 10 chez les flyweight, à l'autre bout du monde en plus, ben bravo à lui. Bravo à lui, et puis putain, bravo au combat qu'ils nous ont fait, quoi. Les deux, hein, parce que Manel Capé, je veux absolument pas, faut absolument pas rien retirer de sa performance juste parce qu'il a un peu trop ouvert sa gueule, parce qu'il était frustré. Encore une fois, je le comprends qu'il soit frustré, parce qu'il a eu vraiment pas de chance. Je reviendrai un tout petit peu sur son fight speech, parce que ça, je suis obligé de mettre un petit point là-dessus. Premier round, Dos Santos n'a pas peur et fonce sur Capé, mais Capé le drop vite et plonge dans sa garde. Santos se relève. Les échanges de mains sont vraiment rapides, vraiment dangereux, ça part dans tous les sens, c'est les flyweight, c'est le festival. Capé se calme un peu, prend son temps, on sent une petite amélioration de fight IQ à ce moment-là, et vraiment reprendre son destin en jeu, reprendre le combat entre ses mains. Capé ne veut pas rester dans la carte de Santos, il préfère clairement se relever après un bref échange de grappling. Ça va vraiment vite, j'ai l'impression que les deux peuvent se dropper à tout moment. Les deux mangent des coups, mais Dos Santos en mange un petit peu plus, mais il est très 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 résistant. La défense de lutte de Capé est vraiment top, il mange deux straight left en plus, Capé à la fin de round, mais ne bronche absolument pas, les deux ont un menton, les deux. Round 2, toujours de beaux échanges avec Dos Santos qui chasse, hein, clairement Capé, et qui parvient à connecter plusieurs fois. Par contre, Capé répond avec des beaux calf kicks qui a fait trébucher Dos Santos. Et quand Capé rentre, il touche aussi, hein. Il rentre vite dans son adversaire et se déplace vite latéralement pour pas, ben, tu veux sortir de la main qui est plus faible, hein, à savoir pas la main arrière. Et ça, Capé le fait très bien. Sort un beau crochet et secoue Dos Santos, mais le Brésilien est toujours là, hein. Il en aura mangé beaucoup, je vous le dis, sur le combat, et ce gars-là est vraiment tough. Mais c'est pas seulement manger des coups, hein. C'est manger des coups, reprendre derrière et puis être très vite en déplacement et puis donner un combat à son adversaire. Et ça, Dos Santos a été magnifique là-dedans. Capé, par contre, paraît mieux gérer la distance et mieux gérer les brawls aussi, hein. Tandis que Dos Santos, il va peut-être un petit peu plus avec ses émotions. Et le head movement est du côté de Capé. On va aller deux round peut-être pour Capé, peut-être un round chaque. Troisième round, Capé devient plus dominant, hein, dans les entrées-sorties, je trouve. Dos Santos arrive à connecter. En gros, il en met une, il en reprend trois derrière. Capé en mange aussi quand même pas mal, mais il reste très composé. Dos Santos, lui, pareil, mange tout, mais sans broncher, mais il en mange trop et il perd. Ça part un peu en folie sur la fin. Capé passe un takedown. Ça, c'était smart aussi, hein. Il restait 20 secondes. Ne pas aller chercher le brawl dans les 20 dernières secondes alors que tu gagnes probablement le combat. Capé est clairement hué à la suite de ses déclarations en conférence de presse. Et on découvre, quelle surprise, un autre fighter du UFC roster. Bah ouais, on peut dire homophobe, parce que genre, c'est utiliser ce mot-là, là, c'est non, tout simplement. C'est un gros non. Voilà, mais il s'en bat les couilles, et bah écoute, moi encore une fois, séparer l'art de l'artiste, sinon on s'en sort plus, hein. Mais ça fait chier d'entendre ça. Moi, j'ai les oreilles qui couinent, clairement, quand j'entends ce mot-là. Et il y en a pour qui ça fait rien. Bah écoutez, voilà, hein, c'est genre, je suis pas là pour dicter les sentiments de personne. Mais ça fait chier quand même en 2023 d'entendre ça, là. C'est pas nécessaire, ce mot, quoi. Tu dis, il y a tellement de mots, il y a tellement d'insultes dans le monde que t'es obligé de choisir celle-là, quoi. Ça fait chier. C'est con. C'est con. Bon, bah, il va se battre contre Kai Kara France, et puis Kai Kara France sera vraiment motivé pour aller le chercher. Magnifique combat. Peut-être le combat de la soirée, je pense, parce que bordel, ça va vite, ça va dans tous les sens. Il aurait fallu que je le voie deux fois, j'ai l'impression, ce combat-là, mais je les ai vus en décalé, tous les combats. Donc je pense que j'ai un petit peu d'analyse et un petit peu de à froid aussi, parce que c'était vraiment genre... ça allait vite, c'était beau, merci les flyweight. Dos Santos, belle addition à la catégorie, ce mec. Le kid, on va le revoir vite, il a perdu, mais je pense qu'on va apprécier, que tout le monde peut apprécier le fait qu'il soit rentré en short notice et d'avoir combattu de cette façon. Bravo à lui aussi. Bon, on peut passer à ce co-main event entre Bam Bam, Tai Tuivasa et Alexander Volkov. Match-up qui, sur le papier, puait pour Bam Bam, tant Volkov est vraiment complet en MMA, puis évidemment une expérience débile hein, pour le heavyweight qui a je ne sais plus combien de combats en pro, et qui a un bon striking, une bonne allonge, et qui est un géant aussi. Il doit faire genre quasiment 2 mètres, ou il fait 2 mètres, et Bam Bam, lui, du haut de son petit 1m83, 84, 85, c'était compliqué. Pour Bam Bam qui, ben malgré tout, a quand même réussi à instaurer un minimum son game plan, à savoir genre essayer de détruire les jambes de Volkov, parce que essayer de rentrer dedans pour aller chercher des overhands et des grosses droites, ça aussi il a essayé, mais ça lui a clairement pas réussi. Par contre, je trouve que les low kicks et les calf kicks, ça marchait bien. Premier round, on voit direct hein, que ça va être un problème, cette taille, cette allonge, cette différence de morphologie entre les deux. Les kicks de Volkov passent bien, quoi. Les middle kicks, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bam Bam veut s'approcher, mais le jab de Volkov, clairement, devient directement un problème. Et la main droite en counter de Volkov est très dangereuse. Bam Bam le paiera cher. Volkov lance aussi des high kicks pour varier les niveaux. Et là, ça commence encore une fois à se compliquer. Encore un petit peu plus. Bam Bam travaille encore une fois, comme je vous le dis, bien les leg kicks, mais se fait drop sur un counter right, survit, et Volkov accélère en fin de round. C'est dur pour Bam Bam. Ça ne marche pas, ça pue. Ça pue, parce que comme je vous le dis, Volkov, sur le papier, c'était compliqué. Dans la cage, ça l'est encore plus. Entre le round 1 et le round 2, le corner de Bam Bam lui dit de continuer sur les calf kicks, qu'il a une jambe vraiment défoncée. Effectivement, sa jambe d'appui, son lead leg, comme disent les anglophones, sa jambe avant gauche, commençait à prendre cher, ses déplacements commençaient à être un petit peu compromis, et la jambe enflée, la jambe bleue, etc. Mais Bam Bam continue, mais à chaque fois, dans le deuxième round, qu'il approche pour aller chercher un gros power low kick, bah, il s'expose aux mains de Volkov, et il a glissé plusieurs fois. Je pense qu'il était un petit peu cuit aussi dans le 2. Deux fois, il a glissé. La première fois, il a réussi à s'en sortir et à se relever. La deuxième fois, c'était mauvais. C'était plus bon. Volkov passe de trop facilement. Il n'y a pas eu de garde fermée de la part de Bam Bam. Hein. Volkov lui saute direct dessus. Il se retrouve en demi-garde. Pas de knee shield de la part de Bam Bam. Pas de protection avec un genou. Directement, il se retrouve dans full demi-garde avec dos aplati pour Bam Bam. Il est dans la merde. Hein, parce que tu as un gars de 2 mètres au-dessus de toi, de je sais pas, genre 260 livres. 2 mètres. Qui est doué en jiu-jitsu au sol, probablement meilleur que toi. Pardon. C'est la merde. C'est clairement la merde, et puis, première tentative de rear naked choke, ça passe pas, de arm triangle, pardon, ne passe pas, mais la deuxième passera, hein. Ezekiel de la part de Volkov, et puis un Ezekiel, c'est dur à faire avec les petits gants, mais bon, voilà, Volkov a réussi à le passer. Bam Bam a dû taper parce que je pense que la pression devait être débile. Il était vraiment haut sur Bam Bam, et Bam Bam n'a pas défendu, n'a pas poussé les hanches de son adversaire. Ça, c'était un gros problème. Il a essayé de défendre le haut alors qu'il faut essayer de pousser sur les hanches pour essayer d'aller récupérer ton genou pour aller chercher un quart de garde et après une demi-garde et après récupérer ton full garde et puis commencer à travailler d'ici là. Mais voilà, Bam Bam n'a pas été discipliné là-dessus. Puis le fait qu'il glisse aussi, ça a été chiant. Et comme je vous le dis, avancer pour des low kicks, ça l'a ouvert à des problèmes de counter avec les mains de Volkov. Voilà, Volkov a gagné le combat, pas de A à Z, mais en grande principalité, il a gagné le combat. Ça a été dur pour Bam Bam, et puis ouais, j'ai l'impression que la hype, Bam Bam, depuis la défaite contre Cyril, ça commence un petit peu à baisser. Et ouais, ça, c'est un petit peu le... Bam Bam, c'est un peu comme Derek Lewis, quoi. C'est des hauts, des bas, et on sait que ça ira genre probablement jamais tout en haut, même si Derek Lewis, comme je vous le dis, avait eu au final un title shot contre Cormier, c'était mal passé. Mais voilà, Bam Bam, j'ai l'impression que ce serait un peu ça. Des hauts, des bas dans sa carrière. Il est jeune encore, mais lui, je pense que son but, c'est de rester un minimum compétitif, d'enchaîner des combats, prendre quelques chèques et d'aller chercher 2-3 KO et puis de kiffer la vie. Et c'est tout le bonheur que je lui souhaite. Mais là, c'est clair, évidemment, que on voit la différence de technique entre les deux. Il s'est pris une différence technique contre Gann, ça a été dur. Et là, il se prend une différence technique contre Volkov, ça a été dur. Donc, il fallait qu'il rende le combat un peu plus sale, mais Volkov a décidé autrement. Et puis, je vous dis, cette défense au sol, ça n'a pas pu marcher. Ça ne peut pas marcher dans le plus haut niveau, du moins. Et puis Volkov, quel vieux briscard, toujours talentueux et toujours là, toujours présent. Bravo Alexander, combien de victoires ça nous fait pour Alexander Volkov, j'ai regardé ça vite fait. 37 wins en pro. Bon, il a 34 ans, hein, il a eu le temps, hein, évidemment, et 10 défaites. Mais 24 knockouts, 4 soumissions, 9 décisions. Le bonhomme, il rigole pas, quoi. Et là, il en est... 3 victoires d'affilée au final. Rosenstreich, TKO. Alexander Romanov, TKO. Et Taito Iwasa, Ezekiel Choke. C'est pas mal. Le gars, il perd contre les meilleurs de la division. Thomas Pinal, Cyril Gann, Curtis Blades, Derek Lewis. Mais il a battu Verdun, il a battu Walt Harris, il a battu Overeem. Ben voilà, c'est Volkov, quoi. Volkov, il a toujours été là, et je sais pas jusque quand il sera là, mais en tout cas, genre, belle carrière pour le Russe, quoi. Franchement, respect. Il est toujours là, toujours présent, et puis techniquement, toujours propre. Bravo, Alexander Volkov. Bon, attaquons le plus gros morceau de la soirée. Alors, comme je vous le dis, hein, toute transparence, je n'avais absolument pas de hype par rapport à ce combat, pour les raisons que j'ai déjà citées en début de podcast, donc on va passer directement dans le combat, pardon. Mais ouais, bravo à Sean Strickland qui, pour lui, pour son type de fighter, pour lui-même, c'est le combat parfait de Sean Strickland. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premier round, Strickland avance sur Izzy comme prévu. De toute façon, vous savez, c'était clair et net qu'il allait avancer. Puis, c'est lui le contender en plus, donc c'est lui qui doit avancer. Mais déjà, Strickland, dans son style, avance sur son adversaire. Avec une garde un peu haute et disciplinée. Et puis ça, ce sera la clé du combat, clairement. Et donc, il avance sur Izzy comme prévu. Izzy en déplacement latéral proche de la grille. Alors ça, on pouvait l'imaginer. Maintenant, est-ce que j'imaginais ça 5 rounds ? Non. Mais c'est ce qui s'est passé. Premier round, Strickland avale toutes les feintes de Izzy. Et là, pour moi, ça sent bon parce que je me dis, quelqu'un qui avale autant les feintes face à un striker de haut vol comme Izzy, eh ben, ça devrait être une bonne soirée pour Izzy qui devrait pouvoir passer les strikes. Pas forcément à tous les moments, mais à des moments clés. Si quelqu'un, ton adversaire, avale toutes les feintes, normalement, tu peux en passer. Eh ben non. Au final, le fait que Strickland pousse toujours et engage les mains quand Izzy est dos à la cage, eh ben, ce sera un problème pour Izzy. Adesanya est confiant dans son counter et quand Strickland attaque, Izzy reste un petit peu bloqué contre la cage avec une coquille, vraiment une garde assez haute, et il essaie de counter derrière. Mais Strickland, même s'il en aura mangé quelques-unes dans le combat, a rien de très dangereux. Hein. Il n'a pas de damage sur sa face, absolument pas. Et en fin de round, Izzy a failli perdre. En fin de premier, tout simplement. Genre, il s'est fait drop sur une droite directe. Il s'est relevé vite et Strickland essaie de le finir parce qu'il a vraiment envoyé de la patate comme pas possible. Et c'est ça qui est impressionnant dans la performance de Strickland aussi, c'est que il a essayé de finir Izzy, genre sur 10 secondes, 20 secondes, il aurait pu genre vider tout son gas tank, mais non. Le gas tank de Strickland est apparemment à finir. Ça disait qu'il était capable de se parer genre 15-20 rounds sur des sessions d'entraînement. What the fuck? Surtout si c'est 5 minutes en MMA. C'est crevant. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... C'est pas du crossfit ou whatever, hein, du MMA, si tu te lèves et que... Enfin, si tu vas au sol, tu te relèves, tu vas au sol, tu te relèves et tu pousses avec du striking, c'est épuisant de faire autant de rounds. Et là, d'avoir fait 5 rounds comme ça, bravo à Strickland. Izzy donne le pouce à l'arbitre, hein, pendant qu'il était en train de se faire battered contre la cage, histoire de dire, genre, n'arrête surtout pas le combat parce que ça va. Et il a eu raison parce que Izzy a tenu bon, quoi. Ça, au final, il était correct, mais il s'est quand même fait dropper, il s'est relevé vite, et il s'est mangé vraiment la furie de Strickland. Tout va bien, mais gros avertissement pour Izzy, clair round pour Sean Strickland. Round 2, toutes les strikes de Izzy tombent dans la garde de Strickland encore. Et là, je vous le dis, comme je vous parlais des feintes, que Strickland les gobait toutes, bah, le fait que ça finisse que tout finit dans la garde, bah déjà dans le deuxième, je suis un petit peu inquiet. Sean avance toujours, Izzy est un peu bloqué hein, sur le côté tactique du combat. Même certains leg kicks sont pas efficaces parce qu'ils sont checkés par Sean Strickland. Eugene, le coach de Izzy, demande du volume. Et là, premier overhand de Izzy qui fait peur, ça passe. Mais même avec le range advantage, Izzy galère à connecter. Un peu dur, mais un peu plus volumineux. Un peu plus de striking de la part de Izzy, mais toujours bloqué un peu contre cette grille. Je donne le round à Izzy, DC donne le round à Izzy. On en est à 1-1. Mais ça reste très serré et je trouve que le côté tactique va être très compliqué pour Israël. Round 3, Izzy balance beaucoup de middle. Hein, en espérant, une baisse de garde pour pouvoir passer ce fameux head kick. Mais tous les high kicks que Izzy passera termineront dans le téléphone de Strickland. Très discipliné, Sean, avec ce téléphone au niveau mâchoire-oreille pour pouvoir protéger justement des head kicks de Izzy. Et Izzy en passera 0 dans le combat. Et ça, clairement, comme je vous le dis, avec les histoires de feinte, moi, je pensais qu'à un moment donné, ça allait pouvoir passer. Nope. Ça y est, une main arrière-passe pour Izzy. Il essaie de revenir au centre un petit peu plus, mais Sean pousse toujours et encore avec ses maudits 1-2. Au final, Sean Strickland va gagner avec une bonne garde, avec clairement un push contre la grille, des 1-2 et de temps en temps un crochet. That's fucking it. Rien d'autre et ça a marché. Je trouve Izzy un peu trop sur ses appuis arrière, hein, clairement. Un peu trop sur ses talons et contre la grille, et même s'il y a les déplacements latéraux pour éviter tout ça, c'est trop passif. Chubb gobe toujours toutes les feintes, mais Izzy n'arrive pas à placer le fameux coup derrière. Izzy commence à entrer et sortir, mais devrait le faire plus souvent. Izzy doit constamment fuir la grille. Il n'arrive pas à prendre le contrôle de l'octagone. Sean Lane, plus gros hein, au niveau du damage, clairement. Et puis on le verra à la fin des 5 combats. C'est Sean qui l'aime le plus. 2-1 pour Strickland. On rentre dans les Championship Round. Les deux gaillards sont habitués au Championship Round. Izzy bien plus. Mais Sean a une cardio des enfers. Tout peut arriver. Round 4, Izzy a beau changer les niveaux pour essayer de connecter encore une fois ce maudit high kick, ça ne marche pas. Strickland a toujours cette maudite garde, toujours le téléphone. Par contre, attention à cette main droite de Sean. Hein. On le sait, Izzy, tu t'es fait connecter plusieurs fois, notamment en fin de première round, ça peut être très dangereux. Quand Sean libère ses mains contre la grille, Izzy est clairement en danger. Izzy essaye de regagner le centre de l'octogone derrière. Nope, Sean pousse. Encore, il pousse, encore et toujours, libère ses mains. Izzy est encore en danger. Izzy ne panique pas, hein, mais il perd. Donc il devrait peut-être paniquer un petit peu. Sean pousse tranquille avec des jabs et Izzy se retrouve à 1-3. On rentre dans le cinquième round. Strickland a toujours une cardio, toujours en train de pousser. Zéro damage sur la face. Izzy commence pousse enfin, mais se retrouve vite dans la même situation à se faire pressured. Sean est moins propre dans le cinquième, sa garde commence à baisser et je me retrouve avec un espoir de peut-être Izzy va connecter, peut-être Izzy va passer ce fameux question mark kick, un high kick ou une droite qui connecte ou alors ce fameux crochet. Non, la garde baisse, mais Izzy n'arrive toujours pas à profiter de ce moment-là. Il doit plus risquer, hein, mais son jab... Mais jab juste un peu plus, Sean gagne à base de 1-2, base de quelques crochets. Izzy mange encore une droite directe et Izzy perd 4 rounds. Izzy fut la proie de ce combat. Sean le chasseur. Et puis Sean pousse plus à la fin dans les 20 dernières secondes, c'est ça le pire. Voilà. Les middleweight, c'est là où on en est. Je sais pas. Et j'ai été très, très, très prudent pendant la Fight Week. J'en parlais avec les amis au club, au gym. J'en parlais sur Twitter. J'ai pas ouvert ma gueule par rapport à ce combat parce que je fais putain après Duplessis, Whittaker. Je peux plus ouvrir ma gueule, quoi. On peut plus. Il y en a d'autres, hein, d'autres gens, d'autres podcasts qui ont été pas forcément traumatisés, mais marqués par l'issue de ce combat entre le Sud-Africain et l'Australien. Après ça, je peux pas dire Strickland va jamais gagner contre Izzy. Après ce combat-là, je me dis tout est possible. Je ferme ma gueule, on verra bien ce qui se passe. Moi, ce que j'imaginais, c'était plus Izzy, gère mieux la distance, mais même si Izzy a su gérer plus ou moins la distance, ben, quand tu te retrouves dos à la grille pendant 5 rounds à te faire chasser, mais pas tout le temps connecté, c'est pas vraiment, c'est pas positif, tu perds quoi, tout simplement. Tu perds, et puis là, il a perdu 4 rounds, et vraiment, clairement quoi. Sean a fait son meilleur combat, ever, pour lui. Parce que peut-être Izzy a manqué de... Peut-être que c'était un soir sans au niveau du striking pour Izzy et qu'il n'arrivait pas forcément à connecter, mais ça, la garde de Sean, à part dans le cinquième round, était... Alors certes, il y a toujours des ouvertures hein, dans la façon dans sa garde, pas forcément orthodoxe, mais sa garde était là quand même. Elle a quand même été là. Et dans les moments où il devait bloquer, il a bloqué. Sur le papier, c'est un combat, encore une fois, parfait de Strickland. Il a fait exactement ce qu'il fallait. Dans ce qu'il sait faire lui, il a fait exactement ce qu'il fallait. Il aurait pas pu faire mieux. Genre, avec ses mains, le gars envoyait zéro kick. Et quand il envoie des frog kicks, c'est moche à souhait, c'est dégueulasse, je suis d'accord avec vous. But who fucking cares, man? À la fin, tu veux la ceinture, il gagne la ceinture, point barre. Et il la mérite. C'est ça le pire. C'est qu'il la mérite à 200%. Il n'y a absolument aucune controverse, je cherchais mon mot sur le qui a gagné les rounds. Pour moi, du moins, c'est Strickland en gagne 4, quoi. Facile. Dur pour Izzy, quoi. Izzy s'est fait pousser contre la grille, s'est fait manger tactiquement, n'a pas su changer son game plan. Et puis, c'est ça le problème quand t'es juste un... Enfin, c'est pas juste un striker, Izzy, mais un peu, au final, à la fin de la journée, en MMA, oui. Bah là, contre Strickland, de se faire bloquer comme ça, c'est de pas avoir de plan derrière, c'est ça le problème de pas avoir de grappling aussi. C'est que si tu sais pas amener ton adversaire au sol et que ton combat de kickboxing au final, parce que c'est ce que c'était, est en train d'être perdu face à un gars qui n'est pas un kickboxer, c'est chaud quoi, ça fait chier. Et d'être le meilleur, d'être the GOAT, ça prend un MMA complet. Et Izzy, on voit que là, c'est un problème. Parce que là, je parle du meilleur, hein, parmi les meilleurs, le GOAT, whatever, enfin, le GOAT. Je retire ce mot-là. D'être parmi les meilleurs, ok. Ça prend un MMA complet, et puis apparemment, Izzy ne l'a pas, tout simplement. Peut-être qu'il l'a, mais s'il ne l'a pas montré, ça ne change rien. Si tu n'as pas été capable d'aller chercher une solution, ça prouve que t'es pas forcément parmi les meilleurs. T'es parmi les meilleurs strikers dans le MMA, ça 100%. T'es parmi les meilleurs dans le MMA, peut-être pas. Hein. Mais encore une fois, c'était peut-être un soir sans. J'ai hâte de revoir la revanche, clairement. Après, vous me dites, ouais, mais mec, tu vois Izzy passer, c'est pas Izzy qui va passer des takedowns, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais que Sean, il est plus à l'aise là-dedans, etc. Mais à un moment donné, tu sais, il faut être capable de profiter de... Je sais pas, de te retrouver contre la grille pour changer ton game plan, retourner ton adversaire contre la grille, essayer de bien lutter et avorter un round pour Strickland. C'est peut-être pourri comme stratégie, mais quand t'es champion, il faut savoir le faire. Et Izzy est pas capable. Il y a plein de possibilités. Mais ça, c'est si tu utilises tout ton arsenal de MMA que t'as peut-être pas forcément ou que t'es pas complètement... pas capable d'utiliser sur un moment donné parce que ton adversaire te bloque tactiquement. C'est Strickland qui a bloqué le combat et qui a dicté le combat. Et c'est Izzy qui a perdu et c'est Izzy qui a pas su répondre face cette tactique de Strickland qui a été clairement parfaite. Et je vais arrêter là parce que j'en ai assez parlé et puis j'ai envie de voir la suite, quoi, tout simplement. Et puis... comme je vous le dis, il y a du bon qui s'en vient chez les middleweight, mais Khamzat, voilà, il doit battre Costa, et puis après, si on a Khamzat contre Strickland, alors là, ça, c'est un combat que j'attendrai de fou. Izzy, je sais pas s'il veut son rematch direct, il a beaucoup de travail à... Comme je vous le dis, il a du travail à faire sur son... soit sa réponse, ou alors soit sur le MMA qui lui manque, certains aspects du MMA qui lui manquent. À lui de nous le montrer. Merci pour cette écoute. Hein. Je ne vais pas sortir les violons parce que Izzy a perdu. N'attendez pas ça de moi. Ça ne marche. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que, parce que c'est un sport et que dans une cage, il y a que deux gars et puis il y en a un qui en sort victorieux. Hein. C'est peut-être pas du 50-50, mais hier soir, ça l'était clairement. Et puis, Sean Strickland a joué crânement sa chance. Bravo à lui. Et merci à vous pour cette écoute. On se reparle très bientôt. Il y a une belle petite carte la semaine prochaine hein, pour... Grasso Shevchenko, il y a quelques combats sympas, et puis le 23 septembre il y a quelques combats sympas aussi sur la carte. Il y a d'autres podcasts qui s'en viennent, n'hésitez pas à souscrire sur Spotify, Apple, Deezer, Google, Amazon, tout le bordel. Bref, merci du soutien en tout cas, il y a des gens qui écoutent et puis merci à vous, voilà, vraiment. Et vive l'amour, l'amour du MMA, hein. C'est l'amour du sport qui nous fait vivre la passion, les amis. Ciao.
End of the day, it is what it is.